François Villon. La balade des pendus.
Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, cinq, six, quand de la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée et pourrie, et nous, les os, devenons cendre et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Ce frère, vous clamons, pas n'en devez avoir dédain, quoique fûmes oxy par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sang rassis. Excusez-nous, puisque sommes transis envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, âme ne nous harie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a bués et lavés, et le soleil desséchés et noircis, pies, corbeaux nous ont les yeux cavés et arrachés la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous ne sommes assis, puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nous charrie, plus becqueté d'oiseaux que des accoudres. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Prince Jésus, qui sur tous a maîtris, garde qu'enfer n'ait de nous seigneurie, à lui n'avons que faire, ne que soudre. Homme, ici n'a point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
Clément Marot l'a dû envoyer aux dames de la cour. Adieu la cour, adieu les dames, adieu les filles et les femmes, adieu vous dit pour quelque temps, adieu vos plaisants passe-temps. Adieu le bal, adieu la danse, adieu mesure, adieu cadence, tabourins, hautbois et violons, puisqu'à la guerre nous allons. Adieu les regards gracieux, messagers des cœurs soucieux. Adieu les profondes pensées satisfaites ou offensées. Adieu les harmonieux sons de rondeaux, d'ixins et chansons. Adieu, piteux département, adieu, regrets, adieu, tourments, adieu, la lettre, adieu, le page, adieu, la cour et l'équipage. Adieu, l'amitié si loyale qu'on la pourrait dire au royal, étant gardée en ferme foi par ferme cœur, digne de roi. Adieu, mamie, la dernière, en vertus et beauté première. Je vous prie me rendre à présent le cœur dont je vous fais présent pour en la guerre où il faut être en faire service à mon maître. Or, quand de vous se souviendra, l'aiguillon d'honneur l'espoindra aux armes et vertueux faits, et s'il en sortait quelque effet digne d'une louange entière, vous en seriez seule héritière. De votre cœur donc vous souvienne. Car si Dieu veut que je revienne, je le rendrai en ce beau lieu. Dieu.
Louise Labbé, je vis, je meurs.
Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. La vie m'est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout à un coup je ris et je larmoie, et en plaisir maigre, grief, tourment j'endure. Mon bien s'en va, et à jamais il dure. Tout en un coup je sèche et je vais redevoir. Ainsi amour inconstamment me mène. Et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser je me trouve hors de peine. Puis quand je crois ma joie être certaine et être au haut de mon désir et heure, ils me remettent en mon premier malheur.
Du Bellay, heureux qui comme Ulysse, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Sestulla qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit Liré que le mont Palatin, et plus que l'air marin.
Ronsard à une jeune morte. Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs au point du jour l'arrose. La grâce dans sa feuille et l'amour se repose, embaumant les jardins et les arbres d'odeur. Mais battue ou de pluie ou d'excessive ardeur, languissante elle meurt, feuille à feuille déclose. Ainsi en ta première et jeune nouveauté, quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, la part que t'as tuée et cendre te repose. Pour obsèque reçois mes larmes et mes pleurs, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que vive ne soit que rose.
Malherbe. Consolation à Monsieur Dupérier sur la mort de sa fille. Ta douleur, Dupérier, sera donc éternelle, et les tristes discours que te met dans l'esprit l'amitié paternelle l'augmenteront toujours. Le malheur de ta fille au tombeau descendu par un commun trépas, est-ce quelque dédale où ta raison perdue ne se retrouve pas? Je sais de quels appas son enfance était pleine, et n'ai pas entrepris, injurieux ami, de soulager ta peine avec son mépris. Mais elle était du monde où les plus belles choses ont le pire destin. Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Puis, quand ainsi serait que selon ta prière, elle aurait obtenu d'avoir en cheveux blancs terminé sa carrière, quand fut-il advenu? Penses-tu que, plus vieille, en la maison céleste, elle eût eu plus d'accueil, ou qu'elle eût moins senti la poussière funeste et les vers du cercueil? Non, non, mon Dupérier, aussitôt que la parque ôte l'âme du corps, l'âge s'évanouit au-deçà de la barque et ne suit point les morts. Titon n'a plus les ans qui le firent cigale, et Pluton aujourd'hui, sans égard du passé, les mérites égales d'Archémor et de lui. Ne te lasse donc plus d'inutiles complaintes, mais sage à l'avenir, aime une ombre comme ombre, et des cendres éteintes, éteins le souvenir. C'est bien, je le confesse, une juste coutume, que le cœur affligé par le canal des yeux vidant son amertume cherche d'être allégé. Même quand il advient que la tombe sépare ce que nature a joint, celui qui ne s'émeut à l'âme d'un barbare ou n'en a du tout point, mais d'être inconsolable et de dans sa mémoire enfermer un ennui, n'est-ce pas se haïr pour acquérir la gloire de bien aimer autrui? Priam, qui vit ses fils abattus par Achille, dénué de support et hors de tout espoir du salut de sa ville, reçut du réconfort. François, quand la Castille, inégale à ses armes, lui vola son dauphin, sembla d'un si grand coup devoir jeter des larmes qui n'eussent point de fin. Il les sécha pourtant, et comme un autre Alcide, contre fortune instruit, fit qu'à ses ennemis d'un acte si perfide, la honte fut le fruit. Leur camp, qui la durance avait presque tari de bataillons épais, entendant sa constance, eut peur de sa furie et demanda la paix. De moi, déjà deux fois d'une pareille foudre je me suis vu perclus. Et deux fois la raison m'a si bien fait résoudre qu'il ne m'en souvient plus. Non qu'il me soit grief que la terre possède ce qui me fut si cher, mais en un accident qui n'a point de remède, il n'en faut point chercher. La mort a des rigueurs à nul autre pareille. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse crier. Le pauvre en sa cabane où le chaume le couvre est sujet à ses lois, et la garde qui veille aux barrières du Louvre n'en défend point nos rois. De murmurer contre elle et perdre patience, il est mal à propos. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en repos.
Agrippa d'Aubigné, ô France désolée. Ô France désolée, ô terre sanguinaire. Non pas terre mais cendre, ô mère, si c'est mère que trahir ses enfants aux douceurs de son sein, et quand on les meurtrit, les serrer de sa main. Tu leur donnes la vie, et dessous ta mamelle s'émeut des obstinés la sanglante querelle. Sur ton pis blanchissant ta race se débat, et le fruit de ton flanc fait le chant du combat. Je veux peindre la France, une mère affligée qui est entre ses bras de deux enfants chargés. Le plus fort, orgueilleux, empoigne les deux bouts des tétins nourriciers. Puis à force de coups, d'ongles, de poings, de pieds, il brise le partage dont nature donna à son baisson l'usage. Ce voleur acharné, cet essaim malheureux fait dégâts du doux lait qui doit nourrir les deux. Que pour arracher à son frère la vie, il méprise la sienne et n'en a plus d'envie. Lors son Jacob, pressé d'avoir jeûné, mais lui, ayant dompté longtemps en son cœur son ennui, à la fin se défend et sa juste colère rend à l'autre un combat dont le champ est la mer. Ni les soupirs ardents, les pitoyables cris, ni les pleurs réchauffés ne calment leurs esprits, mais leur rage les guide et leur poison les trouble, si bien que leur courroux par leurs coups se redouble, leur conflit se rallume et fait si furieux que d'un gauche malheur ils se crèvent les yeux. Cette femme éplorée en sa douleur plus forte succombe à la douleur ni vivante ni morte. Elle voit les mutins tout déchirés, sanglants, qui ainsi que du cœur des mains se vont cherchant. Quand pressant à son sein d'un amour maternel, celui qui a le droit à la juste querelle, elle veut le sauver, l'autre qui n'est pas là, viole en poursuivant l'asile de ses bras. Adon se perd le lait, le suc de sa poitrine. Puis aux derniers abois de sa proche ruine, elle dit: vous avez fait longs ensanglantés le sein qui vous nourrit et qui vous a porté. Or, vivez de venin, sanglante géniture. Je n'ai plus que du sang pour votre nourriture.
Corneille. Le Cid.
Percé jusque au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste querelle, et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile, et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé, oh Dieu, l'étrange peine! En cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène. Que je sens de rudes combats. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme, ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini. Oh Dieu, l'étrange peine! Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? Père, maîtresse, honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie, tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire ternie. L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, mais ensemble amoureuse, digne ennemi de mon plus grand bonheur, fer qui cause ma peine. M'es-tu donné pour venger mon honneur? M'es-tu donné pour perdre ma Chimène? Il vaut mieux courir au trépas. Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père. J'attire en me vengeant sa haine et sa colère. J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. À mon plus doux espoir, l'un me rend infidèle et l'autre indigne d'elle. Mon mal augmente à le vouloir guérir. Tout redouble ma peine. Allons, mon âme, et puisqu'il faut mourir, mourons du moins sans offenser Chimène. Mourir sans tirer ma raison, rechercher un trépas immortel à ma gloire, endurer que l'Espagne impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison, respecter un amour dont mon âme égarée voit la perte assurée. N'écoutons plus ce penser suborneur qui ne sert qu'à ma peine. Allons, mon bras, sauvons du moins l'honneur, puisqu'après tout, faut perdre Chimène. Oui, mon esprit s'était déçu. Je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse. Que je meure au combat ou meure de tristesse, je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. Je m'accuse déjà de trop de négligence. Courons à la vengeance. Et tout honteux d'avoir tant balancé, ne soyons plus en peine. Puisqu'aujourd'hui, mon père est l'offensé. Si l'offenseur est père de Chimène. La Fontaine. Les deux pigeons. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit, qu'allez-vous faire? Voulez-vous quitter votre frère? L'absence est le plus grand des maux, non pas pour vous, cruel. Au moins que les travaux, les dangers, les soins du voyage changent un peu votre courage. Encore, si la saison s'avançait davantage, attendez les zéphyrs, qui vous pressent? Un corbeau tout à l'heure annonçait malheur à quelque oiseau. Je ne songerai plus que rencontres funestes, que faucons, que réseaux. Hélas, dirais-je, il pleut. Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut? Bon souper, bon gîte, et le reste? Ce discours ébranla le cœur de notre imprudent voyageur. Mais le désir de voir et l'humeur inquiète
l'emportèrent enfin. Il dit, ne pleurez point. 3 jours au plus rendront mon âme satisfaite. Je reviendrai dans peu conter de point en point mes aventures à mon frère. Je le désennuierai. Quiconque ne voit guère n'a guère à dire aussi. Mon voyage des pins vous sera d'un plaisir extrême. Je dirai, j'étais là, telle chose m'advint. Vous y croirez être vous-même. À ces mots, en pleurant, ils se dirent adieu. Le voyageur s'éloigne. Et voilà qu'un nuage l'oblige à chercher retraite en quelque lieu. Un seul arbre s'offrit, tel encore que l'orage maltraita le pigeon en dépit du feuillage. L'air devenu serein, il part tout morfondu, sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie. Dans un champ à l'écart, voit du blé répandu, voit un pigeon auprès. Cela lui donne envie. Il y vole. Il est pris. Ce blé couvrait d'un lac les menteurs et traîtres appâts. Le lac était usé, si bien que de son aile, de ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin. Quelque plume y périt, et le pis du destin fut qu'un certain vautour à la serre cruelle vit notre malheureux qui, traînant la ficelle et les morceaux du lac qu'il avait attrapé, semblait un forçat échappé. Le vautour s'en allait le lier, quand, des nus, fond à son tour un aigle aux ailes étendues. Le pigeon profita du conflit des voleurs, s'envola, s'abattit auprès d'une masure, crut pour ce coup que ses malheurs finiraient par cette aventure. Mais un fripon d'enfant, cet âge est sans pitié, prit sa fronde et d'un coup tua plus d'à moitié la volatile malheureuse qui, maudissant sa curiosité, traînant l'aile et tirant le pied, demi-morte et demi-boiteuse, droit au logis s'en retourna. Que bien, que mal, elle arriva sans autre aventure fâcheuse. Voilà nos gens rejoints, et je laisse à juger de combien de plaisir ils payèrent leur peine. Amants, heureux amants, voulez-vous voyager, que ce soit aux rives prochaines? Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. J'ai quelquefois aimé. Je n'aurai pas alors contre le Louvre et ses trésors, contre le firmament et sa voûte céleste, changé les bois, changé les lieux honorés par les pas, éclairés par les yeux de l'aimable et jeune bergère, pour qui, sous le fils de Cythère, je servis, engagé par mes premiers serments. Hélas, quand reviendront de semblables moments, faut-il que tant d'objets si doux et si charmants me laissent vivre au gré de mon âme inquiète? Ah, si mon cœur osait encore se renflammer, ne sentirais-je plus de charme qui m'arrête? Ai-je passé le temps d'aimer?